Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission la plus rock de la bande FM et la plus polar aussi, du moins nous l'espérons. Donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale bande dessinée, car la bande dessinée peut être noire. On va même dire bande dessinée, album dessiné, je préfère ce mot. Pour certains puristes qui considèrent que la bande dessinée, ce n'est pas de la littérature. Donc, je préfère employer le mot « album ». En cet automne, est sorti quelques très, très beaux albums, des albums très intéressants, dont on avait envie de, vous faire partager nos enthousiasmes. Et dans cette première partie, notre coup de cœur. Le coup de cœur, c'est pour un album qui s'appelle « La princesse de sang ». Qui vient de sortir chez Dupuis, très très bel album. Et cet album a été adapté par Doug Edline et mis en image. Les dessins sont de Max Caban. Alors, La princesse de sang, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au polar, ou qui s'intéressent beaucoup au polar, ça doit vous dire quelque chose, parce que La princesse de sang, c'est le dernier roman de Jean-Patrick Manchette, roman d'ailleurs inachevé. Et pour parler de ce très très bel album, nous avons la chance de recevoir ce soir Doug Edline, qui en est l'adaptateur. Bonjour Doug.
Bonjour Corinne.
Et merci beaucoup de nous rejoindre.
Mais je vous en prie, c'est un
donc,
plaisir.
Comme je disais, donc, votre actualité, c'est donc, la sortie de ce magnifique album La princesse de sang, pardon. Quand on vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous répondez ? Journaliste, éditeur ?
Oh, je ne sais pas, un peu touché à tout, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes au fil des années, du cinéma, des documentaires pour la télévision, effectivement de la presse, du scénario de bande dessinée, j'ai même eu une maison de bande dessinée.
Voilà, vous avez été éditeur.
Voilà, j'ai fait ça, oui, c'est quelque chose que j'aime bien, la bande dessinée, c'était un plaisir d'y revenir par le biais de ce projet.
Alors, il faut dire aussi que vous êtes le fils de Jean-Patrick Manchette, c'est certainement quand même à cause de ça que vous avez fait l'adaptation de La princesse de sang et que nous avons le bonheur d'avoir cet album maintenant. Donc, question peut-être la plus difficile de cette interview, est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous parler un petit peu de l'œuvre de Jean-Patrick Manchette ?
Oui, bien sûr, je suis pas son biographe, mais en tout cas, je peux vous donner un petit aperçu. Bon, c'est quelqu'un qui a commencé à écrire très jeune, hein. Il est né en 1942 et déjà un peu passé la vingtaine d'années, il commençait à noircir beaucoup de papier. Il a publié son premier roman à peine après 25 ans, donc c'était son premier série noire. Et puis de là, entre disons 1971 et 1982, en à peine plus de 10 ans, il a publié 10 romans. En tir rapide, pour ainsi dire, quasiment un par an, qui ont beaucoup changé les choses dans la perception que les lecteurs et le grand public ont eu du roman policier français ou du roman noir français.
Roman noir.
Voilà, je crois que ça a été sa période d'efficacité d'écriture maximale. Et après, il est rentré, après avoir un peu bouleversé ce champ du roman noir français, il est rentré dans une période de réflexion. Ayant l'impression d'avoir un peu bouclé la boucle du roman noir, de ce qu'il pouvait y apporter, il s'est mis à chercher autre chose, une autre forme littéraire sur laquelle continuer à écrire, tout en faisant parallèlement un tas de trucs, du cinéma, des scénarios, un peu de bande dessinée lui aussi, choses comme ça. Et en traduisant pas mal, il était aussi assez versatile, mais il cherchait pendant ces quelques années, c'est à peu près jusqu'en 89, disons entre 82 et 89, une autre forme littéraire. Il l'avait trouvé avec ce roman inachevé, La princesse du sang. Il est arrivé à un projet qui était ambitieux, puisque c'était une sorte de
comédie du XXe siècle.
Pardon,
il me semble me souvenir du terme comédie humaine du XXe siècle.
Ce système était son système narratif, ça se basait sur une espèce de saga qu'il voulait créer qui s'appelait Les gens du mauvais temps. Le mauvais temps étant le temps où nous vivons et où il voulait remonter l'histoire contemporaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, qui était le moment où il écrivait cette partie de son œuvre. Et bon, c'était une espèce d'histoire occulte ou d'histoire alternative des éléments un peu plus méconnus qui avaient finalement créé le monde dans lequel nous vivons et qui avaient contribué à qu'on puisse se poser la question qu'il posait au départ, qui était comment diable en est-on arrivé là ? C'est-à-dire comment en est-on arrivé à un monde aussi néfaste, aussi écrasant, où disons les forces mauvaises du capitalisme on avait à peu près tout broyé, où les espoirs de révolution étaient à la fois nés puis étouffés. Enfin bon, donc c'était ce grand tableau de la deuxième moitié du XXe siècle qu'il était parti pour brosser et dont la Princesse du Sang marquait un peu le coup d'envoi. Alors malheureusement, on sait, il est tombé malade et le cancer l'a emporté assez vite, malheureusement. Bon, en 95, il n'était plus là. Il avait travaillé vraiment d'arrache-pied sur ce nouveau roman et ce nouveau cycle pendant ces quelques années-là. Et voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait eu une grande injustice à ce que ce projet magnifique n'ait pas été prolongé, n'ait pas été porté à son zénith et n'ait pas pu aboutir. Donc je me suis dit, la petite part que je peux apporter, la petite pierre à l'édifice, c'est de prendre le manuscrit inachevé du roman et d'essayer de le compléter. Alors j'avais fait ça initialement sous la forme d'un scénario de film, puisque ce qui nous a servi de base à Max Cabane et à moi-même pour La Princesse du Sang en bande dessinée, c'était un scénario de film. Et puis le film a failli se faire.
Excusez-moi, je vous interromps. Le scénario, c'était quelque chose qu'il avait fait après ou qui a été travaillé par d'autres que lui?
C'est moi qui l'ai fait, en fait.
D'accord,
lui a laissé un manuscrit, si vous voulez. Manchette a laissé un manuscrit inachevé qui était en gros la moitié du roman, que j'ai fait publier un an après sa mort en 96, parce que déjà je trouvais que le texte était très beau. Et c'est aussi pour ça
Pour les amateurs, il est ressorti en folio policier maintenant.
Voilà, c'est maintenant en folio policier, avec des chapitres inédits d'une autre version du manuscrit, puisque c'est un manuscrit qui a été beaucoup retravaillé. Bon, il y a du matériel supplémentaire dans le folio, et c'est aussi présent dans le volume quarto sur Manchette que Gallimard a édité, où il y a aussi tout un espèce d'appareil de notes sur lesquelles je me suis pas mal appuyé pour faire le scénario de la bande dessinée. Bon, voilà. Et donc, disons, si vous voulez, la première adaptation qui a eu lieu, c'était une adaptation pour le cinéma que j'avais rédigée disons il y a presque 10 ans maintenant, 8 ou 10 ans, et puis le film ne s'étant passé, j'ai un peu rangé le scénario dans les tiroirs, et en même temps je me disais quel dommage que cette belle histoire n'ait pas vu le jour en entier. Et puis la collection Air Libre a été reprise par un vieil ami à moi qui s'appelle José-Louis Boquet, qui est un excellent directeur de collection pour Dupuis maintenant.
Et qui vient d'ailleurs de sortir, il vient de ressortir un très très bel 3 bandes dessinées, 3 enquêtes de son détective à Hollywood, José-Louis Boquet.
De Hollywood, c'est aussi un romancier, un scénariste de talent. Il avait fait un formidable Kiki de Montparnasse chez Casterman il y a 2 ans. Bon, c'est quelqu'un avec qui on se connaît depuis 30 ans, donc ça a pu, si vous voulez, amener à la création de la bande dessinée La Princesse du Sang, parce que José à Air Libre avait envie de faire des choses nouvelles, différentes, et on cherchait un projet, et je lui ai proposé ça, et ça lui a plu, voilà. Et il ne nous est resté qu'à chercher un brillant dessinateur pour mettre ça en image.
Je peux vous affirmer que vous l'avez trouvé. Ça, on n'en doutait pas non plus, mais bon.
C'était notre premier et seul choix, en fait, Max Cabane, parce qu'on trouvait qu'il y avait chez Max, que je ne connaissais pas avant, mais dont j'apprécie beaucoup le travail, quelque chose de particulier, d'à la fois très lisible, très classique pour un grand public, une vraie bonne bande dessinée avec une narration prenante, etc. Et puis une finesse, une souplesse dans le trait et dans les caractères, aussi bien que dans les atmosphères, qui me paraissait bien collée à cette histoire un peu compliquée qui est celle de la
princesse. Oui, parce que histoire donc compliquée, on va venir maintenant un petit peu essayer de débroussailler un petit peu cette histoire, enfin donner juste, on va dire, un mot à la mode, le pitch. Donc ce roman se voulait à la fois roman d'aventure, roman politique, roman social, et donc ça se passe un petit peu aux quatre coins du monde,
à
plusieurs époques,
fresque, oui.
Voilà, plusieurs époques, on a pendant la guerre, on a juste après la guerre, dans les années 50, c'est peut-être aussi pour ça que l'adaptation cinéma, c'était dur, ça devait coûter très très cher, non?
Exactement, voilà. Vous avez mis le doigt dessus, ce serait certainement un beau film, mais peut-être un beau film américain, parce qu'il faudrait des moyens assez amples pour le mettre en scène. Bon, il y a ce jeu entre les époques, puisque on démarre, comme dans le projet de Manchette et comme dans le manuscrit du roman, juste après, enfin à la fin, toute fin de la Seconde Guerre mondiale, à Berlin en 1945, et puis ça se poursuit jusqu'au moment où l'histoire démarre vraiment, c'est-à-dire en 1956.
En 1956.
Et puis là, on suit l'aventure d'une jeune femme photographe de reportage, et principalement de reportage de guerre, donc un personnage un peu de garçon manqué qui est sur tous les champs de bataille.
Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être garçon manqué comme Ivory Pearl, parce qu'elle est belle. Hein.
Oui, c'est une belle jeune fille, très aventurière et pleine d'énergie. Et en fait, au moment où l'histoire commence, elle a un petit peu, elle aussi, bouclé une boucle. C'est-à-dire qu'elle en a un peu marre, elle en a un peu sa claque des champs de bataille et des guerres. Et elle voudrait prendre une sorte d'année sabbatique à l'écart du monde, sortir un peu du fracas du monde moderne. Et donc, elle décide d'aller, pour schématiser, dans la jungle de Cuba pour prendre des vacances.
Oh, elle décide, c'est aussi son mentor, Robert Messenger, qui l'incite.
Voilà. Alors elle est en fait sous les conseils ou sous la coupe d'un Pygmalion qui est un officier anglais de la Royal Air Force qui pour ses propres raisons a recueilli plus ou moins Ivory Pearl à la fin de la guerre alors qu'elle était orpheline et vivotait à Berlin en faisant des photos de cadavres d'officiers allemands et Messenger qui est un type qui vient de la bonne société anglaise très classique mais qui a le défaut pour ses contemporains d'être homosexuel, une chose qu'il essaie de cacher.
Ces années-là,
utilise Ivy Ivory Pearl comme bouclier contre les regards un peu trop inquisiteurs du monde extérieur. Il en fait sa protégée et il pense que les gens trouveront ça plus naturel qu'un officier britannique de 45 ou 50 ans et une jeune protégée féminine plutôt que de savoir qu'il a des penchants homosexuels. Donc voilà, il utilise Ivy comme ça et de même, il est pris dans une machination où les différents services secrets français, anglais et américains sont impliqués qui le poussent à téléguider un peu le séjour d'Ivory Pearl à l'écart du monde en l'envoyant à Cuba. Donc elle pense qu'elle le décide, mais en fait c'est évidemment lui qui le décide pour elle et il la parachute au milieu d'une sorte de piège qu'il n'a pas vu lui-même venir mais qui va la mettre en grand danger.
Voilà, et puis il y a une histoire d'une petite fille avec une scène au départ, aussi bien dans le roman que dans la bande dessinée, une espèce d'introduction, de pré-générique, on dirait au cinéma.
Exactement.
Où il y a quelques hommes qui se disputent autour de la disparition de l'enlèvement d'une jeune fille, Alba Black, j'arrivais plus à prononcer ce nom. En général, quand on pense BD et Jean-Patrick Manchette, on pense Tardy, on pense noir et blanc, très souvent. Vous avez parlé du choix de Max Cabane. C'était pour amplifier peut-être un peu le côté aussi, le côté aventure. Il me semble que ça a été privilégié dans la BD, dans l'adaptation, plutôt dans cette première partie, tout du moins, puisqu'on a oublié de dire qu'il va y avoir un deuxième tome l'année prochaine, en 2010.
Voilà, nous espérons dans moins d'un an que la...
Nous aussi, on l'espère, ça va être long.
Bon. Oui, on va faire pour le mieux de manière à ce que ce soit pas un trop long temps d'attente parce que c'est vrai qu'on a coupé sur un suspense le premier tome et voilà, il faut vite amener la seconde partie.
Voilà, bon, mais ceci dit, plaisanterie mise à part, on attendra impatiemment, mais on attendra quand même, surtout pour laisser le temps d'abord à vous de scénariser la suite. Parce que,
ça va, c'est fait. Maintenant, c'est Max qui dessine sur les chapeaux de roue. On en est à la page 16 du deuxième tome. Vous voyez, on avance bien. Là, j'ai reçu tout à l'heure la page 16. Donc, chaque jour amène son lot de nouveautés. Et je pense qu'on tiendra le délai et que l'album sera dans les librairies en octobre ou novembre l'an prochain. Maintenant, pour répondre à votre question initiale sur le noir et blanc et la couleur, sur Tardy et Cabane, je crois que La Princesse de Sang, c'est un roman différent des autres romans de Manchette. Oui. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est à la fois un thriller politique, un roman d'espionnage, un roman d'aventure, il y a des éléments de roman noir aussi. Bon, ça brasse beaucoup plus de thèmes que les 10 romans noirs de Manchette parus en série noire et dont Tardy a adapté Le Petit Bleu de la Côte Ouest pour commencer. Et là, il est maintenant sur La Position du Tireur Couché. Donc lui, ce sont des romans qu'il traite d'une manière remarquable. D'ailleurs, c'est des très belles adaptations, mais qui sont, si vous voulez, très ancrées dans l'imagerie et dans le contexte du roman noir, donc du roman policier. Ça appelle le noir et blanc. Ça appelle une narration plus littéraire que ce qu'on a fait nous. Max et moi, on a essayé d'imaginer, si vous voulez, le roman La Princesse du Sang comme un film, en se basant justement sur ce scénario de film que j'avais rédigé, et de cette manière, on s'est dit que c'était un film en cinémascope, c'était une sorte de grand film d'aventure américain des années 50-60 avec beaucoup de décors différents et qu'il fallait de l'écran large, de la couleur et beaucoup de dépaysement. Et du coup, l'approche était forcément très différente. De même, Jacques Tardy a utilisé beaucoup de de textes en voix off provenant du roman Le Petit Bout de la Côte Ouest quand il l'a adapté. Nous, on a essayé de faire quelque chose qui soit vraiment pour la bande dessinée et se débarrasse un petit peu de ça, tout en conservant des choses, bon, vous l'aviez remarqué, très fidèles au roman, c'est-à-dire...
Oui, on a les mots de Jean-Patrick Manchette.
Voilà, on a quelques phrases en voix off, mais assez peu, parce qu'on pense que c'est... Pour ce projet-là, c'est bien d'avoir une lecture de bande dessinée totale et non pas une lecture de roman adapté. Et par ailleurs, en même temps, c'est très très proche parce que c'est vrai, il y a tous les dialogues. Les personnages, je pense, sont caractérisés en fonction de ce qui est décrit par Manchette dans le manuscrit.
Ah oui, impressionnant. Oui.
Voilà, bon, c'est intéressant pour nous sur ce plan-là, c'est-à-dire d'essayer de rester fidèle tout en amenant un visuel complètement autre que celui qu'on aurait pu imaginer. Alors à la fois, nous, c'était aussi un défi pour nous et surtout pour Max de se confronter ou d'affronter Tardy sur ce terrain, parce que il a fait un travail brillant, comme toujours, sur l'adaptation de Manchette, mais nous, on essayait justement d'être ailleurs. On s'est dit, bon, ben, là, on veut pas que la comparaison soit en défaveur de l'un ou l'autre, mais que les travaux soient complémentaires, en fait. Voilà. Donc,
c'est tout à fait. Et puis, je crois d'ailleurs qu'on n'a pas à comparer. On est sur deux plans différents. Enfin, moi, ce que je voudrais préciser pour donner un peu quand même, donner envie de lire cette magnifique BD et de se la procurer, c'est moi, j'étais particulièrement impressionnée par les éclairages qui rendait à chaque fois l'atmosphère totalement juste, que ce soit dans un salon très british de Messenger ou en plein milieu de la jungle cubaine. Il y a vraiment un petit peu très cinématographiquement, comme si on avait placé un chef-op. Max Cabane vraiment a fait un travail absolument magnifique.
Oui, c'est vrai. Je dois dire que moi, j'étais absolument ravi de cette collaboration. Je pense qu'on va d'ailleurs continuer, peut-être sur d'autres adaptations de Manchette ou d'autres choses différentes. Mais enfin, on s'est extrêmement bien entendu. On a travaillé en grande intelligence et je trouve que son boulot est épatant, quoi. C'est vrai que c'était à peu près exactement ce que j'imaginais à l'époque où je pensais au film. Bon, ben voilà, les images sont là, les personnages sont là. En plus, ce sont des personnages assez hors du commun puisqu'on a à la fois cette femme aventurière, photographe, qui est à la fois fragile et très forte. On a un héros homosexuel, ce qui n'est pas très courant non plus. On a des personnages secondaires qui sont des méchants absolument incroyables. Enfin bon, c'est vrai que c'est une belle galerie de personnages.
Ça fait très, oui. Quand... On est obligé de vous quitter. On vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, la première partie de l'émission se termine. Dogeline, merci beaucoup. Je rappellerai toutes les coordonnées de quelques livres de Jean-Patrick Manchette et de cette bande dessinée dans la deuxième partie. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Merci à vous, Corinne. Au revoir.